Cominciamo con la camminata e poi David Le Breton farà qualche considerazione lassù dove siamo all'ombra, con un'amplificazione tale per cui non dobbiamo spolmonarci, e funziona.
È più silenzioso, no?
È molto più tranquillo, non siamo appunto in mezzo a una strada.
Là, vous avez des très grands.
Oui, j'ai. Il est mort. J'ai eu la possibilité de voir quelque chose. Je ne sais pas pourquoi vous avez fait ça. Je me
vends. Ouais, mon cou. Certainement, c'est ça. C'est pour les questions. Je ne sais pas. Je ne sais pas.
C'est pas moi.
C'est
pas
moi. Oui, c'est ça. Alors, tout d'abord, j'aimerais présenter la marche comme une forme de résistance dans le monde d'aujourd'hui, une forme de résistance puisque les valeurs centrales de nos sociétés contemporaines sont celles de la vitesse, de l'efficacité, du rendement, de l'utilité, etc. Et il est clair que la marche est plutôt un éloge de l'inutile. On marche pour rien, simplement on marche pour le plaisir. Comme disait autrefois un grand alpiniste britannique qui montait sur l'Everest, on lui disait « Pourquoi montez-vous ?» Il disait « Parce que les montagnes sont là. » Et nous aussi, nous marchons parce que les chemins sont là. Et dans un monde utilitariste comme le nôtre, évidemment, c'est une sorte d'anomalie. Également.
Comme prima cosa, volevo cercare di presentare il cammino, il camminare a piedi, la marcia. Come una forma di resistenza nel mondo di oggi, nel mondo odierno, in cui i valori centrali delle nostre società sono velocità, efficienza, rendimento e utilità. Per me invece la marcia è piuttosto l'elogio dell'inutile, di quello che si fa per niente, per il gusto di fare, per il piacere di farlo. Un grande alpinista britannico che ha scalato l'Everest si è sentito un giorno chiedere: ma scusi, lei perché fa? Perché scala le montagne? Risposta molto semplice che gli è venuta: perché le montagne ci sono. E lo stesso vale per noi camminatori, per noi marciatori. Camminiamo perché i sentieri, le strade ci sono là. Allora, elogio di qualche cosa che, siccome è inutile e si contrappone all'utilità e all'efficientismo, è in fondo considerabile come un'anomalia.
Elogio aussi de la lenteur, c'est-à-dire qu'un marcheur va lentement, peut-être à 5, 6, 7 km/h, guère davantage, peut-être parfois d'ailleurs moins quand on est dans des sentiers de montagne, par exemple. Donc le marcheur est quelqu'un qui prend son temps et ne laisse pas le temps le prendre. Il est le maître d'heure de son temps, c'est lui qui décide de s'arrêter, c'est lui qui décide de sa vitesse, c'est lui qui décide de faire la sieste quand il en a envie ou de manger quand il en a envie. Il n'est pas donc dans une démarche de rendement, d'efficacité, il est donc dans la lenteur. Je vois aussi dans la marche un éloge de la conversation et non plus de la communication. Parce que je crois que jamais autant que lorsque nous marchons avec les autres, nous conversons, nous parlons. Nous sommes capables de nous écouter, nous sommes capables d'être très longtemps silencieux ensemble, sans qu'il y ait aucune gêne, C'est beaucoup plus difficile, évidemment, d'être ensemble dans un restaurant, par exemple, ou chez soi avec des amis, et puis de rester silencieux pendant une demi-heure, une heure, des marcheurs, sans que l'amitié, sans même que l'amour soit altéré, peuvent très bien se taire pendant de très longs moments et connaître d'innombrables moments de communion, de communication à travers les regards, à travers des gestes. Donc je vois la marche également comme une forme d'éloge, enfin comme une forme de conversation dans son absolu, si vous voulez, d'une disponibilité absolument totale à l'autre, dans la mesure où, en principe, quand on est sur les sentiers, il n'y a pas de diversion, il n'y a pas d'autre distraction que le fait d'être ensemble et de jouir du paysage.
Marcia camminare a piedi anche come elogio della lentezza. Il camminatore normalmente le va 5, 6, magari 7 km all'ora se va bene, non di più, molto spesso di meno, soprattutto se sta camminando su un sentiero in quota. Dunque il camminatore è colui che prende il tempo, non si lascia prendere dal tempo, si prende il suo tempo e è padrone del suo tempo. Sceglie i suoi tempi, sceglie il tempo della fermata, della sosta, della siesta, quando ha sonno, dello spuntino, quando ha fame. Siamo quindi nel registro non dell'efficienza o dell'efficacia, ma della lentezza. Marcia ancora come elogio della conversazione, e dico conversazione e non comunicazione a ragion veduta. Perché penso che mai quando marciamo siamo capaci di parlarci, se siamo in compagnia di qualcuno, se qualcuno cammina con noi, di parlare l'un con l'altro, di ascoltarci l'un l'altro e anche di tacere insieme, di godere insieme del silenzio senza imbarazzo. Quell'imbarazzo che sopravviene quando siamo in situazioni sociali comuni, al ristorante, al caffè, a casa di amici, è difficile abbandonarsi al silenzio senza che qualcuno si senta imbarazzato, senza che l'amicizia, magari l'amore, venga in qualche maniera alterato o diminuito per colpa del silenzio. Quindi ci sono dei momenti veramente di unione e di vicinanza possibili nel silenzio del camminare insieme, che non lo sono altrove. E sono momenti in cui prevale, piuttosto che la comunicazione verbale, lo sguardo o il gesto. E sono momenti, quelli del cammino, della strada fatta a piedi, insieme, anche di disponibilità totale nei confronti dell'altro, in mancanza di tutte quelle diversivi, di quelle distrazioni che ce lo impediscono nei momenti, diciamo, di vita quotidiana. C'è un grande piacere di abbandonarsi anche a questo piacere del silenzio insieme.
Une autre subversion de la marche, sans doute, c'est aussi la flânerie, puisque le marcheur est un flâneur, et on peut dire qu'aujourd'hui, nos sociétés ont vraiment déclaré la guerre à la flânerie. Je vous rappelle d'ailleurs que c'était l'un des mots d'ordre de Taylor, qui organisait les usines Ford aux États-Unis dans les années 20, l'un des slogans de Taylor, c'était « guerre à la flânerie ». Un ouvrier ne doit pas flâner, un ouvrier doit travailler. Et aujourd'hui, on peut dire que dans la mondialisation qui est la nôtre, il est clair que flâner devient absolument un scandale. Or, le marcheur, c'est celui qui va prendre son temps, qui va flâner justement et qui va imposer son rythme à l'encontre des rythmes sociaux dont nous sommes très souvent les victimes. Une autre forme de résistance de la marche, c'est évidemment c'est la présence du corps. Alors que nous vivons dans une société sans doute qui utilise de moins en moins le corps, qui transforme le corps en une sorte de chose encombrante, pesante, fatigante, puisque la plupart du temps dans nos journées, chacun de nous, nous sommes assis à longueur de temps. Nous sommes assis dans nos voitures, nous sommes assis dans nos bureaux, nous sommes assis devant la télévision, et très souvent les journées se passent sans que nous ayons réalisé le moindre exercice physique. Donc le corps nous pèse, on se sent souvent mal dans sa peau précisément, on éprouve une fatigue nerveuse, et absolument pas une fatigue physique, trial, une fatigue physique est toujours jubilatoire d'une certaine manière, parce qu'on sait qu'on va, on va se reposer, on va prendre une douche, on va prendre un bain et on sera dans un bonheur. La fatigue nerveuse, elle est toujours insupportable, elle nous empêche de dormir, elle nous tracasse, etc. On pourrait dire d'une certaine manière que nous vivons l'humanité assise aujourd'hui. C'est le paradoxe de nos sociétés, d'un corps qui devient superflu, qui devient inutile, qui devient obsolète, et d'ailleurs dont certains rêvent même de se débarrasser complètement. C'est le thème de l'obsolescence du corps, c'est le thème de l'anachronisme du corps que j'ai traité dans un livre il y a quelques années qui s'appelle « L'adieu au corps ». L'idée que le corps donc est aujourd'hui dépassé en quelque sorte par la post-humanité qui nous attend, une post-humanité grandiose où nous aurons des puces électroniques informatiques absolument partout dans le corps. Il est clair que là, la marche paraît aussi un éloge de l'anachronisme dans une société où l'on va tellement vite, où l'on envoie des fusées dans les étoiles, eh bien un certain nombre d'hommes ou de femmes préfèrent encore continuer à marcher comme il y a des millions d'années, les premiers hommes.
Ancora aspetti sovversivi del camminare a piedi, della marcia. Il primo è la scioperataggine, il fatto che il camminatore è uno sfaccendato quasi per definizione, uno, come abbiamo detto, che si prende i suoi tempi e rompe i vincoli temporali della nostra società, in una società che non ammette che si sia sfaccendati, bighelloni, scioperati. Il taylorismo degli anni 20 rimane ancora con noi, lì era stata proclamata la guerra all'operaio sfaccendato, se sei operaio devi lavorare. Ma questo perdere tempo, questo bighellonare, anche oggi, anzi forse oggi più di allora, è scandaloso. E il marciatore, il camminatore appunto è uno che si prende i suoi tempi e li impone contro i tempi della nostra società, contro i ritmi della nostra società, che ci fa delle vittime del tempo che manca per lo più. Un altro aspetto è la presenza del corpo nella marcia. La nostra società utilizza il corpo, ma non lo vive per sé. Il corpo spesso nella nostra società, secondo gli stili di vita odierni, è un ingombro, è un peso e anche una fonte di fatica, di stanchezza e di fatica. Per un motivo molto semplice, buona parte delle nostre giornate non le trascorriamo seduti per ore e ore, seduti in automobile, seduti sugli altri mezzi di trasporto, seduti in ufficio, davanti alla scrivania, davanti alla televisione. Quindi viviamo una fatica senza che ci sia veramente una fatica fisica, un dispendio di energie fisiche, non facciamo esercizio fisico e questo corpo, in capo ad anni di una vita fatta in questa maniera, ci pesa. Lo sentiamo soltanto nella parte gravosa, dolorosa, non sentiamo la grande felicità che comporta la fatica fisica, come quella di camminare, che induce una sorta di giubilo, di tripudio, sentiamo il peso e il male di una fatica che è soltanto nervosa, che ci schiaccia, che ci opprime, che spesso ci toglie anche la serenità del sonno. Per un'umanità seduta, il corpo tende a diventare inutile, superfluo, persino obsoleto. È un tema questo che è stato affrontato, dell'obsolescenza e dell'anacronismo del corpo, ne ho parlato io stesso in alcune mie opere. L'idea sarebbe appunto che il corpo degli uomini è superato nell'era della postumanità, era di tecnologia dove possiamo pensare di supplire tutte le funzioni del corpo con dei microchip, dei congegni tecnologici. In questo senso per me la marcia, camminare a piedi è un elogio dell'anacronismo, andiamo contro non solo il tempo, la temporalità, ma i nostri tempi, la società, andiamo contro una società sempre più veloce e sempre più efficiente e come gli uomini e le donne di milioni di anni fa, molti, anche oggi, preferiscono andare a piedi o tornano a andare a piedi, tornano a camminare.
Quand j'étais plus jeune, j'ai 53 ans, quand j'étais plus jeune, je me souviens dans la région qui était la mienne, c'est-à-dire Le Mans, une ville ouvrière, en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, nous pouvions parcourir la campagne, nous pouvions faire du vélo sans aucun risque. Il y avait très peu de voitures et donc nous ne risquions pas d'accident et nos parents pouvaient très bien nous laisser jouer dans les rues ou jouer dans la campagne sans qu'il y ait de soucis. Je me souviens aussi que nous nous baignions dans toutes les rivières, dans tous les lacs, ça ne posait absolument aucun problème. Nos parents nous apprenaient simplement à nager, pas mes parents, je veux dire les parents de tous les gens de mon quartier, on nous apprenait à nager, puis après on se débrouillait et on pouvait parcourir le monde qui nous entourait. Aujourd'hui, je crois que c'est une liberté, c'est un bonheur qui est de plus en plus interdit aux enfants, puisque les routes sont extrêmement dangereuses partout, dans tout le monde européen en tous les cas. En plus avec les problèmes d'incivilité routière qui sont chroniques dans nos sociétés, ce qui est moins le cas en Amérique du Nord ou dans d'autres, ou en Europe du Nord également. Voilà, peu à peu, les vélos ont quitté les routes, peu à peu aussi les tombereaux, les ânes, les chevaux, que j'ai connu aussi quand j'étais plus jeune, ont quitté les routes et puis les voitures sont devenues souveraines de tous nos moyens de déplacement. Je vous rappelle évidemment, vous le savez, que dans beaucoup de pays au monde, en revanche, il y a encore énormément de marcheurs sur les routes, souvent par contre de manière extrêmement dangereuse. Je pense à l'Inde par exemple, où je voyage souvent. Et quand vous prenez un car en Inde, vous voyez sur le bord de la route d'innombrables carcasses de voitures écrasées, des morceaux de motos. Vous voyez souvent sur le bord de la route également des personnes accidentées. J'en ai jamais tant vu qu'en me promenant comme ça sur les routes de l'Inde. Parce que les piétons sont en concurrence avec des voitures qui roulent vraiment très très vite et dans une sorte d'indifférence à la vie. On pourrait dire la même chose d'ailleurs de la vallée de Katmandou que j'ai connue il y a une dizaine d'années. On pouvait faire du vélo, c'était un endroit absolument magique. Aujourd'hui c'est impossible, même les Népalais portent des masques sur la voie principale de Katmandou. Elle est tellement encombrée de voitures, il faut je crois des heures pour descendre cette avenue. Voilà, la voiture conquiert le monde d'une certaine manière, mais en même temps avec tout son cortège d'accidents, de morts, de pollution, et puis de destruction de l'espace, puisque évidemment c'est la voiture va de pair avec l'urbanisation, avec un parcours que nous pouvons moins emprunter à hauteur d'homme, mais qui exige de nous d'avoir des moyens de protection, tout comme la voiture par exemple.
Ora ho 53 anni, ma quando ero più giovane, poiché vengo da una regione operaia della Francia, ricordo che noi bambini, anche se vivevamo in una cittadina, avevamo tutta la campagna per scorrazzare. Le famiglie ci lasciavano andare in bicicletta perché sapevano che comunque non rischiavamo nulla, perché c'erano poche automobili e potevamo giocare per strada, farci il bagno nei fiumi, nei torrenti, perché ci si insegnava appunto a nuotare e poi potevamo cavarcela da soli in piena libertà. Oggi questa libertà è proibita ai nostri figli dal fatto che le strade sono completamente invase da veicoli a motore e perlomeno per quanto riguarda l'Europa, forse meno il Nord America, anche perché c'è un'enorme e crescente inciviltà stradale. Con gli anni sia le biciclette che le bestie da trasporto sono scomparse gradualmente dalle strade e le macchine, gli autoveicoli se ne sono impadroniti e signoreggiano sulle nostre strade. Tuttavia in molti paesi si vede ancora molta gente che cammina, che va a piedi per strada, esponendosi molto spesso a pericoli notevoli. In India, mai come nel tempo che ho passato in India, ho visto persone sinistrate, vittime di incidenti lungo le strade e carcasse di veicoli gettate di lato nelle strade. Questi pedoni, questi camminatori, gente che magari non ha semplicemente i mezzi che è abituata a spostarsi a piedi perché non ha altri mezzi per farlo, si espongono a pericoli costanti di sinistri. Nella valle di Kathmandu, che un tempo era un luogo magico dove si poteva andare in bicicletta liberamente, ho visto i nepalesi che non soltanto non vanno più in bici, ma che nelle città, per esempio nella via principale di Kathmandu, vanno in giro con la maschera, per quanto diciamo è inquinata. Dunque questa prevalenza, questo strapotere delle automobili, degli autoveicoli, provoca non solo incidenti con morti, ma anche enorme inquinamento e soprattutto la distruzione degli spazi umani, perché va di pari passo con l'aumento dell'urbanizzazione. Non ci sono più percorsi da poter percorrere, per l'appunto, come dire, a misura d'uomo, il che ci costringe a cercare di proteggerci, il che ci costringe a rinchiuderci ancora e sempre di più dentro dei veicoli.
Je ne peux pas sous-estimer en revanche l'importance que prend la marche comme forme de loisir ces dernières années, ces 10 dernières années, où on voit la rénovation d'innombrables sentiers. Vous vivez dans cette partie de l'Italie, tout un travail autour de la Via Francigena, par exemple. Les chemins de Compostelle également ont été rouverts ces dernières années. Il y a 30 ans, par exemple, sur les chemins de Compostelle, il n'y avait pratiquement personne. Aujourd'hui, par contre, c'est devenu un peu, c'est un lieu très fréquenté, presque une sorte d'autoroute même de marcheurs. Bon, je pense que c'est pas chacun de toute façon met sa spiritualité. C'est pas du tout gênant qu'il y ait beaucoup de monde. Mais en tous les cas, ça traduit bien cette forme de résistance, aussi une résistance politique de nos sociétés qui s'aperçoivent qu'elles sont en train de perdre une part essentielle de la vie. En France, vous avez énormément d'endroits où vous pouvez marcher aujourd'hui. La plupart des municipalités, je crois, en France, éditent des brochures qui sont données aux touristes. Et vous pouvez vraiment partout, je crois, trouver 4, 5, 6 sentiers qui prennent une heure, deux heures, trois heures, parfois davantage. Je crois que les autorités politiques, dans un certain nombre de pays, ont pris conscience de l'importance de proposer aussi d'autres formes de tourisme, disons, une sorte de tourisme alternatif, plus écologique également, un tourisme de découverte, un tourisme de rencontre avec les gens, et puis aussi de rencontre avec la gastronomie locale. Bon, c'est dans la région où je vis, à Strasbourg, c'est l'Alsace. Vous avez d'innombrables fermes auberges, par exemple, où vous pouvez marcher pendant des heures et vous allez manger délicieusement, et puis vous allez poursuivre votre marche. Vous avez des fermes auberges qui sont un peu partout sur votre parcours, des refuges pour ceux qui montent plus haut, qui n'ont pas le temps de redescendre. Voilà, donc il y a des lieux où il y a une formidable organisation aujourd'hui du tourisme pédestre, on pourrait le dire comme ça. Donc qui montre que nos sociétés ne sont pas du tout insensibles, évidemment, même si je pense que quand même les voitures prennent énormément le pas, si je puis dire, sur la marche.
Non sottovaluto nemmeno il valore e l'importanza del cammino, del marciare, del camminare a piedi come forma di come dire, occupazione del tempo libero. Lo si vede questo dal fatto che i nostri paesi europei sempre più stanno ristrutturando, rimettendo a disposizione antichi sentieri tradizionali, come qui in Italia, in questa regione in particolare, la Via Francigena, ma come anche il famoso cammino di Santiago di Compostela. Lungo la strada di Santiago voi fino a 30 anni fa non incontravate nessuno, oggi è talmente frequentato che potremmo parlare di una specie di autostrada dei camminatori, dei marciatori. Quando dico autostrada non voglio dire che il fenomeno mi infastidisca o che io lo deplori in nessun modo, penso che anzi sia dimostrazione del fatto che le nostre società in qualche maniera si sono rese consapevoli, sono sempre meno insensibili al problema del fatto che non sappiamo più andare a piedi e che hanno adottato delle forme, diciamo, di resistenza, per così dire, politica, che dimostrano appunto che la società così capisce che occorre che agli uomini hanno bisogno di prendere parte essenziale alla vita, anche riappropriandosi del tempo del cammino. In Francia qualsiasi piccolo comune ha organizzato o rimesso a nuovo dei sentieri nei dintorni e pubblica e aggiorna costantemente opuscoli che distribuisce e la gente sa dove andare, se ha voglia di camminare e ha più o meno informazioni relative alla durata del percorso, una, due, tre ore di sentiero. È comunissimo proprio che faccia parte della comunicazione alla cittadinanza e ovviamente al turismo, quindi si capisce bene che si è compresa l'importanza di proporre un tipo di turismo che sia più ecologico, più amico dell'ambiente e un turismo che è anche di scoperta, di incontro fra estranei. In Alsazia, che è la regione dove abito adesso, è pieno di aziende di agriturismo, cioè delle fattorie che fanno anche locanda e che fanno da rifugio per i camminatori e per gli escursionisti, che vi consentono di fermarvi a, tra l'altro, a gustare un pasto fatto di specialità gastronomiche del posto. Insomma, si comincia a vedere segni di un'organizzazione in alcuni paesi, in alcuni luoghi, in alcune regioni piuttosto notevole, di una nuova forma di turismo pedestre. Le nostre società dunque non sono perfettamente insensibili a questo problema.
Il faut d'ailleurs rappeler que dans, en Amérique du Nord, par exemple, au Canada, voire aux États-Unis, vous avez depuis toujours d'innombrables lieux pour marcher. Vous avez des parcs naturels qui sont absolument prodigieux et qui sont formidablement bien balisés. L'Europe est en train de redécouvrir l'importance du fait de marcher et puis également la marche donc comme une activité de curiosité, une activité de connaissance également, ce que les Nord-Américains donc savent par contre de très 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 longue date, et d'ailleurs un certain nombre des plus grands écrivains marcheurs sont aussi américains, je pense à Henri David Thoreau par exemple, qui a écrit des livres magnifiques sur la marche et qui est en même temps l'inventeur de la désobéissance civile, vous le savez peut-être, qui a inspiré Gandhi. Mais Thoreau était d'abord un formidable marcheur qui marchait tous les jours 3, 4 heures, 5 heures dans sa région près de Boston. Alors, le marcheur également participe de toute sa chair aux pulsations du monde. Il est dans une forme de sensorialité totale. C'est-à-dire, par exemple, il est dans la vue, évidemment. Bon, mais le marcheur est dans la beauté des paysages, dans la beauté du monde, dans la beauté des collines, des montagnes, de la mer. Il voit le monde et non pas derrière un pare-brise ou même le pare-brise d'un train. Il s'arrête, il contemple. Voilà, le marcheur est plutôt dans la contemplation du monde, là où évidemment derrière notre voiture, même si nous voyons parfois des beaux paysages ou même derrière les vitres d'un train, nous passons très très vite. Le marcheur là est vraiment dans la contemplation du monde. Et il voit d'innombrables paysages qu'il a découverts après avoir marché parfois pendant des heures. En Alsace, par exemple, régulièrement, nous tombons, sans l'avoir cherché, sur des ruines de châteaux, sur des lacs que nous n'avions pas prévus, puisque très souvent, avec ma compagne, nous marchons au hasard en suivant les balises qui ont été édifiées par le club vosgien, quoi, qui est l'équivalent du club alpin pour ici. Et donc on fait toujours des découvertes absolument extraordinaires, complètement inattendues. On se baigne, on visite des châteaux, on escalade des ruines et puis on rentre ensuite. Voilà, donc la marche comme une jouissance du voir.
In Nord America, in Canada, negli Stati Uniti anche, il piacere di camminare è noto da sempre. Ci sono, oltre che grandi parchi naturali immensi e straordinari, ma innumerevoli opportunità per il camminatore, per il marciatore, qualche cosa che forse noi europei stiamo scoprendo con un po' di ritardo, ma e che ci fa capire che camminare è soprattutto un atto di curiosità, un atto di conoscenza e un atto di scoperta. Evidentemente in Nord America gli spazi enormi hanno sempre favorito questo tipo di approccio nei confronti dell'esperienza, tanto vero che alcuni dei più grandi scrittori di cammino a piedi, di marcia, sono nordamericani. Ne cito uno per tutti, Thoreau, autore di importanti libri che hanno influenzato, tra l'altro un pensatore che ha influenzato persino un cultore della disobbedienza civile, che ha influenzato persino Gandhi, ma autore soprattutto di meravigliosi libri sulla bellezza di camminare a piedi e sulle scoperte che si possono fare, e che personalmente non poteva veramente privarsi delle sue 3, 4, 5 ore quotidiane di marcia, di cammino a piedi. La marcia è, camminare a piedi è un'occasione di enorme godimento della vista e non soltanto, di godimento dei sensi. L'uomo è veramente immerso nella pulsazione del mondo quando cammina a piedi. Questa marcia impegna tutti i sensi, e dico la vista per dire forse quello che è così, per primo gode della bellezza, perché camminando, lasciandosi camminare, ci si impregna della bellezza, del paesaggio, delle colline, delle montagne, del mare, che resta bello pur sempre, anche quando lo vediamo dai finestrini del treno o dell'auto, ma se attraversato troppo di fretta non consente la dimensione, se vogliamo, più contemplativa, che invece è quella che la marcia a piedi ti regala. E il piacere del paesaggio scoperto dopo ore di marcia forse si aumenta, si potenzia. In Alsazia, dove vivo con la mia compagna, spesso partendo così per delle passeggiate, senza cercarli, troviamo rovine di castelli di cui nulla sapevamo, laghi che non conoscevamo, e tra l'altro esiste un equivalente nella regione dei Vosgi, un equivalente del CAI, che è appunto il Club Vosgien, che mette a disposizione e sostiene le attività dei camminatori.
Il y a aussi dans la marche le toucher, le fait de toucher les écorces des arbres, de toucher les herbes, de cueillir des fruits. Il y a le bonheur de se baigner, puisque pour moi la marche va aussi de pair avec la baignade. Je ne peux pas voir un lac ou une rivière sans avoir envie de m'y baigner, ou la mer évidemment. Le toucher, la marche, c'est également le sentir, l'olfaction, puisque vous marchez selon les saisons dans des odeurs d'arbres, dans des odeurs de fruits, des odeurs de fleurs, des odeurs des champs, les odeurs de pins, des sapins, etc. Bon, vous baignez dans un univers olfactif qui est extraordinaire et qui n'est pas du tout pollué, évidemment, puisqu'en principe, on marche dans des endroits absolument protégés, loin du monde. La marche, c'est aussi l'éloge de l'ouïe, puisque là, on est vraiment dans la musicalité du monde. On entend le silence, on entend les sources, on entend le vent dans les arbres, on entend les animaux. Bien sûr, vous pouvez toujours avoir une tronçonneuse au loin dans la forêt, mais c'est quand même relativement rare. Voilà, donc dans les cinq sens, la marche est une célébration des cinq sens, on pourrait dire. Sans doute parce qu'évidemment, nous sommes à l'écart de la ville. Ceci dit, on pourrait aussi faire la marche urbaine, me paraît également très chouette, et dans beaucoup de villes aussi, on est dans la célébration des sens tout autant. Enfin, il y a quelque chose de plus pur, il y a une ouverture au monde, évidemment, que nous avons dans la randonnée, par exemple, randonnée dans les forêts, dans les montagnes, dans les déserts, que nous n'avons pas quand même dans la ville. Hein. Une espèce de cosmologie de la marche à la campagne, alors que la marche en ville est plutôt une sociologie, si je puis dire. On n'est pas du tout dans la même sensorialité en ville, même s'il y a aussi un grand bonheur de marcher dans les villes. On n'est pas dans la même sensorialité que dans le désert, dans une forêt, dans une montagne ou au bord de la mer.
I sensi nella camminata, nel camminare, il tatto, il contatto con il terreno, ma anche il toccare gli alberi, i frutti, le erbe, il piacere di farsi il bagno quando si scopre un ruscello o un lago, l'olfatto, le stagioni ci propongono tutto un universo olfattivo in cui siamo immersi quando camminiamo, fatto di aromi, di erba, di fiori, di pini. E anche l'udito, c'è una musica, c'è una musicalità, un mondo musicale che scopriamo camminando, che è quello del fruscio del vento, delle sorgenti, o anche semplicemente del silenzio della foresta, sempre che abbiamo la fortuna di non incontrare una sega a nastro, ma per lo più è abbastanza raro. Insomma, quando dico camminare, dico una celebrazione dei cinque sensi e una grandissima apertura al mondo. Perché per lo più i luoghi che scegliamo per camminare sono lontani dalle città, anche se non ho niente contro la marcia urbana, la camminata in città. Però se volessimo fare un po' un raffronto, potremmo dire che la camminata in città è, come dire, una specie di immersione sociologica nel mondo, ma quella che ci immerge nella cosmologia è la camminata la marcia in campagna, in montagna, nei deserti.
Et puis la marche était aussi évidemment un éloge au goût, à la saveur des choses, puisque le marcheur va cueillir des myrtilles, va cueillir des fraises sauvages, va cueillir des framboises, des noisettes, des châtaignes, des citrons, des oranges, enfin tout dépend évidemment du lieu où vous marchez. Et puis vous avez le bonheur de les goûter, de les manger, et indépendamment du fait que lorsque nous marchons, nous avons faim. Et qu'à ce moment-là, boire simplement de l'eau à une source ou tirer un sandwich de son sac, ça vous paraît quelque chose d'absolument prodigieux, puisqu'on va manger ce sandwich avec une telle faim. Et si en plus vous êtes dans une ferme auberge, ça c'est un bonheur extraordinaire de regarder dans le menu et de se réjouir déjà de tout ce que nous allons manger, de tout ce que nous allons boire avant de reprendre le chemin.
Il senso del gusto persino, nelle camminate si possono raccogliere, se si ha la fortuna, bacche selvatiche, mirtilli, fragole, ma anche agrumi o nocciole. E la fame e la sete che ti mette una bella camminata lunga è quella che ti permette di godere del sapore, del gusto della semplice acqua di fonte se trovate una fonte sul vostro cammino o del panino che tirate fuori dal sacco. Quella fame che avete in corpo vi rende un pasto anche molto semplice e veramente prodigioso, senza bisogno di andare a cercare il menù dell'agriturismo.
La marche est aussi évidemment une forme de spiritualité, une forme de rénovation intérieure, une manière de retrouver une intériorité qui est souvent énormément mise à mal dans nos sociétés occidentales, où la superficie tend à devenir toute la profondeur du monde, d'une certaine manière. Dans une société de l'image, dans une société du look, nous ne sommes finalement que ce que nous apparaissons aux autres. La marche, au contraire, nous replonge dans une intériorité, dans des formes de spiritualité. Elle nous permet aussi de relâcher les tensions qui sont les nôtres. Très souvent, pour ma part, j'ai résolu des problèmes personnels en marchant ou en courant. La course à pied est aussi répond à peu près à la même logique. En courant ou en marchant, j'ai résolu des tensions personnelles. J'ai trouvé des idées d'articles ou de livres ou terminé un chapitre devant lequel je bloquais. C'est-à-dire que la marche nous met dans une disponibilité, dans une espèce d'effervescence intérieure qui relâche toutes vos tensions et qui fait que vous découvrez soudain en vous d'innombrables ressources que vous ignoriez avoir en vous.
Ma camminare a piedi è anche una forma di spiritualità, nel senso che è una forma di rinnovamento interiore o di ritrovamento della propria interiorità in una società come la nostra, per cui quello che si vede alla superficie esaurisce tutto il significato, tutto il senso, una società di immagine, di look spesso. Camminare a piedi è un'occasione per ripiombare dentro un'interiorità e spesso anche risolvere problemi personali e allentare tensioni. A me capita molto spesso di trovare l'idea per un articolo o per una lezione nella camminata, se non nella corsa, che per me quasi insomma assolve più o meno agli stessi compiti. Tante correnti, tante tensioni che ci percorrono si sciolgono e in generale credo che la marcia si conduca in una sorta di disponibilità interiore, persino di effervescenza interiore, dove ci vengono, dove tocchiamo con mano, diciamo, le risorse innumerevoli che abbiamo dentro e che spesso sono completamente, come dire, cancellate dalla nostra vista, dalla troppa tensione.
Maintenant, nous allons bientôt terminer pour discuter ensemble. Je vais développer rapidement l'idée de la marche comme un polythéisme. Voilà. La marche, donc, est un moment où la présence au monde redevient une forme de spiritualité. Elle conjure la séparation entre l'homme et le monde et lui donne le sentiment d'appartenir aux éléments, d'être porté non seulement par la terre ou son poids, mais aussi par une force intérieure nourrie de cette alliance.
Oggi ho fatto accenno adesso alla marcia, a camminare come forma di spiritualità. Vorrei diffondermi un momento prima di arrivare alla conclusione su questo tema, leggendovi una cosa che ho scritto, nella quale affronto la camminata o la marcia come una forma di politeismo. La marcia è il momento in cui la presenza al mondo diviene una forma di spiritualità. Scongiura la marcia, la separazione fra l'uomo e il mondo, e gli dà il senso di appartenenza agli elementi, il senso di essere portato non soltanto dalla terra o dai suoi piedi, ma anche dalla forza, da una forza interiore nutrita da questa alleanza.
Elle n'est pas un monothéisme, car les impressions ressenties par le marcheur sont toujours multiples, contradictoires, toujours changeantes. Elles ne se rangent pas sous une seule bannière, et elles appellent plutôt au plein vent du monde. Elles relèvent d'un polythéisme.
Camminare a piedi, la marcia, non è un monoteismo, perché le impressioni provate dal camminatore sono troppo molteplici, troppo contraddittorie e troppo mutevoli, non si possono raccogliere tutte quante sotto uno stesso stendardo, piuttosto ci richiamano al pieno vento del mondo. Quindi per me la marcia è un politeismo.
Elle est sous l'égide d'une pluralité de divinités. Il importe peu que le marcheur les reconnaisse ou non, car de toute façon, les dieux marchent avec lui. Chaque espace d'une forêt, d'un fleuve, d'une campagne, d'une montagne, d'un littoral, d'un désert, chaque quartier d'une ville est sous l'empire d'un génie des lieux.
Dicevo politéisme. La marcia, la camminata, si svolge sotto l'egida di una pluralità di divinità. Poco importa che il camminatore le riconosca o no queste divinità, tanto comunque queste divinità sono lì con lui durante il cammino. Ogni spazio di una foresta, di un fiume, di una campagna, di una montagna, di un litorale, di un deserto, ogni quartiere di una città è sotto l'imperio di un genio dei luoghi.
En entrant dans son domaine, le marcheur est saisi d'une émotion particulière. Il éprouve attirance ou répulsion, émerveillement ou terreur. Les lieux ne sont pas neutres ni vides. Une force magnétique les traverse, propice ou périlleuse. Le génie des lieux veille à l'hospitalité des uns et repousse les autres. Mais sans doute aussi le génie des lieux nous prévient-il d'un certain nombre de dangers qui nous guettent si nous restons sur cet espace.
Dicevo spirito dei luoghi, allora entrando dentro il suo regno, il regno dello spirito dei luoghi, il marciatore, il camminatore è colto da un'emozione particolare, prova attrazione o repulsione, stupore o terrore, perché i luoghi non sono neutrali, né sono vuoti, né sono deserti, sono attraversati invece da una forza magnetica che è propizia o minacciosa. Il genio, lo spirito dei luoghi, presiede all'ospitalità degli uni e respinge gli altri, o in ogni caso lo spirito di un luogo sempre ci avverte dei mille pericoli che sono in agguato e a volte li disperde.
Se volete possiamo discutere insieme.
Se ci sono domande lui è disponibile ad ascoltare, a rispondere per quello che può. E poi concludiamo con una pagina, che è l'ultima pagina del suo libro in cui parla del mondo a piedi, l'elogio della marcia, e finalmente ci sarà la breve visita della fortezza, con questo panorama splendido che vedrete tra un momento. Perciò se ci sono domande o commenti o riflessioni, siamo qua. Se no, facciamo questa lettura e poi ci accompagniamo di sopra.
Marcio con un animale non è più divertente che da solo.
Con un animale? Sei proprio marrone di marciare con un animale? Se sono?
Sì.
La,
c'est le problème de savoir si l'on marche seul ou si l'on marche avec un autre ou une autre et éventuellement un animal, qui est un problème, un débat qui a beaucoup saisi les écrivains marcheurs ou les marcheurs écrivains. Et je ne sais plus quel écrivain anglais disait que quand on est plus de un, la marche devient un pique-nique. Et donc, il y a effectivement des adeptes de la marche absolument solitaire pour se retrouver soi-même en quelque sorte, pour plonger dans une intériorité absolument sans aucun obstacle. Et puis il y a la marche avec les amis. Avec sa compagne, avec son compagnon, avec ses enfants, avec des amis, où là, la marche est plutôt un moment de retrouvailles entre soi, un moment d'amitié, un moment d'amour. Et puis, évidemment, il y a la marche que l'on peut faire avec l'animal familier, qui est une autre forme d'amitié, évidemment, mais plus complexe, sans doute, puisque la communication est évidemment d'un autre ordre, ne passe plus par la parole, elle est plutôt de l'ordre de l'émotion.
Aspetta che se no me lo perdo, che questi appunti durano qualche secondo e poi... ha messo il dito su un punto che riguarda un grande dibattito che è nato in questa categoria, che sono gli scrittori camminatori o camminatori scrittori, perché ce ne sono molti che scrivono delle esperienze fatte in camminata, in marcia. Camminare da soli e camminare oppure camminare con un altro, e se con un altro, quest'altro che cosa sarà? Un animale, un uomo, altri, molti? Tra i cultori della materia c'è appunto una grande discussione. Non so quale scrittore inglese, che scrive di viaggi a piedi quindi, ha detto che se cammini in più di uno diventa un picnic e la cosa perde ogni interesse per lui, perlomeno. Ma naturalmente ci sono rispettabili adepti della marcia, non solo della marcia solitaria, perché consente il ritorno dentro se stessi, il recupero di una certa interiorità senza ostacoli, ma anche gli adepti della marcia della camminata con gli amici, con il proprio compagno o compagna, con i propri figli. Un'occasione di ritrovarsi fra amici, fra amanti, e perché no camminare con a fianco l'animale, che penso sia un'altra forma di camminata in amicizia, ma forse una forma meno facile, più complessa, perché non c'è il ricorso alla parola, ma ci sono altre forme di comunicazione che portano più sul versante emotivo che non su quello della verbalizzazione.
Da disperati, oppure era come dire, era perché si doveva fare una penitenza, no? Perché durante il Medioevo chi aveva un cavallo, chi aveva un mezzo di locomozione, poteva andare veloce, poteva arrivare nel punto dove voleva, arrivare prima degli altri. Chi camminava da solo era soggetto ai briganti. Ora, siccome noi siamo, io non è che voglio fare un ricorso alla storia troppo indietro, però qui noi siamo figli di gente appunto che aveva di questi problemi. Io vorrei dire questo, che a mio avviso io innanzitutto sono un camminatore, mi piace camminare in montagna, mi piace camminare ovunque, sono capace di attraversare a volte Milano longitudinalmente o per il lungo a piedi, quindi mi piace camminare tanto tempo. Però il discorso è questo, che forse il discorso del mezzo, no, è un discorso che dà sicurezza, e questo è un elemento secondo me che va di tutto, uno deve tenere conto, cioè il discorso dell'animale un tempo dava sicurezza, perché si poteva arrivare più veloce e si poteva essere. Quindi psicologicamente il camminatore però è anche una persona debole a volte, questo secondo me è da sottolineare anche questo, ecco, volevo dire questa cosa.
Mais vous avez oublié les pèlerins parmi les marcheurs du Moyen-Âge et un peu de la Renaissance. En fait, c'était une société où les gens se déplaçaient extrêmement peu. Et vous avez raison, les personnes qui se déplaçaient, c'était plutôt les brigands, mais c'était aussi énormément les pèlerins quand même. Et c'était les pénitents. Puisqu'en effet, l'Église pouvait condamner une personne qui avait commis un crime à aller jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle ou à Rome ou ailleurs, parfois avec des chaînes. C'est-à-dire, il fallait marcher pendant des mois et des mois et des mois avec des chaînes et il fallait revenir. C'est ça, on oublie toujours ça. Quand nous allons aujourd'hui à Saint-Jacques-de-Compostelle, nous revenons en avion ou en train, évidemment, mais les pèlerins revenaient à pied. C'est-à-dire, en fait, c'est un immense, immense voyage et, en effet, extrêmement dangereux, puisqu'on a des récits, on a des très vieux récits de pèlerins du Moyen-Âge qui évoquent toutes les embûches, les rançonnements, pardon, le mot français m'échappe, le fait de rançonner les faire payer, les assassiner. Il faut aussi rappeler que c'était des hommes, pratiquement jamais des femmes. Hein. C'était presque toujours des hommes, évidemment, on le comprend. Mais ils étaient dans la terreur de la nuit qui tombait. Nous savons que la nuit, il n'y a pas de démons, il n'y a pas de danger. Mais pour ces hommes, évidemment, le monde était peuplé d'esprits qui pouvaient être extrêmement dangereux pour eux, qui pouvaient les prendre. Donc on peut imaginer que le pèlerinage dans les lieux saints au moment du Moyen-Âge était vraiment une épreuve absolument prodigieuse pour ces hommes à une époque où on ne voyageait pas. Et c'était impossible de le faire en cheval ou avec un âne, puisque là, la dimension de la pénitence était totalement occultée dans ce cas-là. C'est-à-dire, le pèlerinage avait une vocation strictement religieuse. On n'est absolument pas dans le tourisme ou dans la curiosité. La curiosité, ils s'en fichent complètement. Ils sont vraiment dans la main de Dieu, là, vraiment.
Sì, non dimentichiamo i pellegrini. Cioè, lei ha parlato giustamente dei pericoli della strada, dei briganti e dei penitenti, ma anche i pellegrini. Cioè, la camminata nel Medioevo, nel Rinascimento, era chiaramente la camminata di quei pochi che facevano pellegrinaggio religioso o penitenza, in una società che si spostava normalmente molto poco. Molti sono stati condannati dalla Chiesa, per esempio, a pellegrinaggi forzati per espiare una colpa, un peccato. E oltre l'andata c'era anche il ritorno, quindi doppia dose di fatica, di sofferenza e di esposizione ai rischi. Anche il moderno pellegrino che va a Santiago a piedi torna in aereo. Loro no, loro dovevano fare andata e ritorno tra mille pericoli, come lei diceva, di rapimento, di riscatto, di stupro, tant'è vero che la più parte, la stragrande maggioranza dei camminatori e in quei tempi erano uomini e non donne. E di fronte alla prima minaccia, che era il terrore della notte, perché noi sappiamo che non ci sono i demoni e gli spiriti, ma in altri tempi si credeva a queste entità misteriose che spuntavano di notte. Allora, pellegrinaggio come prova, sostenere una prova, e se venivi vivo, tornavi fuori vivo, avevi veramente, era una sorta di prodigio in un'epoca in cui non si viaggiava e in cui ovviamente non si neanche concepiva l'idea del viaggio, dello spostamento o del pellegrinaggio per motivi di curiosità, di scoperta o di turismo. Era un dovere, a volte una punizione, e dunque da smaltire fino in fondo da soli con le proprie forze, senza cavallo né asino.
Devo ripetere? Ok. Vabbè. Se è stato praticamente il punto di arrivo di un percorso, sia interiore che fisico, corporale, giusto, ha fatto riferimento a come gioca il corpo, no, nel camminare, e se è stato un percorso come io immagino, qual è stato?
Oui, c'est une très très belle question. Parce que vous m'avez fait remonter dans mon histoire personnelle. Parce que la première fois où j'ai vraiment marché, j'en ai parlé ce matin, c'était dans une période de rupture absolue avec la société française, la société européenne. Voilà, c'était l'époque des chemins de Katmandou. Et beaucoup de mes amis partaient en Inde ou au Népal. Moi, j'étais aussi très, très mal dans ma peau. Je m'interrogeais sur le sens de ma vie de façon extrêmement intense. J'avais l'impression que ma vie n'avait pas de sens, n'avait pas de valeur. Et donc, je suis parti pour ma part au Brésil. Pour deux raisons, finalement. À la fois, il y avait la dimension politique. C'était l'époque des dictatures militaires tragiques dans toute l'Amérique latine. Et j'avais le fantasme que peut-être là, au moins, je pourrais servir à quelque chose, alors que je n'étais pas militant politique au sens politique qu'on avait en Italie, par exemple, avec les Brigades Rouges, en Allemagne ou en France. C'était pas mon esprit. J'étais en révolte contre la société, mais pas dans un engagement politique comme ça. Par contre, au Brésil, je savais pouvoir identifier mes ennemis d'une certaine manière. Donc, il y avait ça. Et puis, il y avait une volonté de disparaître, que j'ai compris plus tard, puisque mon objectif, c'était l'Amazonie, surtout, d'ailleurs. Et l'Amazonie, c'est le lieu le plus extraordinaire pour disparaître. C'est une jungle absolument immense, avec des aventuriers qui viennent du monde entier. Bon, vous pouvez vous perdre, et perdre votre identité. Vous diluer dans le monde, en quelque sorte. On va faire avec ça.
La sua domanda è molto bella, la ringrazio perché mi permette di risalire nella mia storia personale. La prima volta che ho veramente camminato era un periodo in cui io mi sentivo in totale rottura con la società francese, ma che dico, con la società europea o occidentale in generale. Era anche l'epoca in cui molti, come si dice, facevano il viaggio a Katmandu, molti dei miei amici, dei miei coetanei partivano per l'India, per il Nepal, alla ricerca di una realtà altra. Io stavo semplicemente male, ero un giovane che viveva un disagio molto molto forte, che si interrogava in maniera molto radicale, molto, molto negativa sul senso della propria vita, sul senso della vita in generale. E quella volta sono andato in Brasile. In Brasile la scelta si può forse dovere al fatto che quelli erano i tempi delle grandi dittature militari dell'America Latina, Brasile compreso. Io forse facevo la fantasia di poter essere utile, di poter servire a qualche cosa, non nel senso della militanza politica come non so, le Brigate Rosse o altri gruppi di forte rottura, ma nel senso che proiettavo la mia rivolta, la mia ribellione contro la mia società addosso a questa società che di qua ce ne aveva ben altri, insomma. E poi perché il Brasile, anche perché c'era una forte volontà di scomparire. E quale luogo migliore della immensa foresta o giungla amazzonica, percorsa da bande di avventurieri di ogni sorta, per sparire, per sottrarsi, perdere la mia identità, diluendola, per così dire, diluendola in un luogo così, così sterminato, diluendola nel mondo.
Et donc, je suis arrivé au Brésil et j'ai compris immédiatement qu'en fait, ce n'était pas la France que je voulais quitter, mais c'était moi, d'une certaine manière. Et je m'étais emmené avec moi, donc il fallait faire avec, d'une certaine manière. Et pendant des mois, donc j'ai fait tout le tour du Brésil, à pied, en faisant du stop, dans des camions, en prenant des bateaux, etc. Bon, ça a duré très longtemps, je n'avais pratiquement pas d'argent, je dormais dehors, mais tous les jours, j'écrivais. Tous les jours j'écrivais parce que je me rattachais d'une certaine manière à l'écriture, et c'est pour ça aussi que j'ai sans doute écrit tant de livres. Je crois que j'en suis à une vingtaine aujourd'hui. L'écriture a toujours été pour moi le point d'accroche dans le monde. Alors à ce moment-là, j'ai énormément marché, effectivement. Quand je suis rentré en France, après avoir été vaincu d'une certaine manière, c'est plus compliqué. J'ai compris en marchant, j'ai compris à travers cette immense fatigue que je portais avec moi, que je devais finalement rentrer en France, terminer mes études de sociologie, puisque j'étais à quelques mois de soutenir ma thèse de doctorat quand je suis parti. Donc j'avais vraiment tout arrêté. Je me suis dit qu'il fallait rentrer chez moi et puis devenir un sociologue ou un anthropologue engagé dans son époque. Et ça, je crois que je l'ai appris sur les routes, à travers ce sentiment d'épuisement, ce sentiment d'écrasement. C'est-à-dire, la marche m'a dépouillé d'une part de moi-même.
Sono andato in Brasile credendo di voler lasciare la Francia e quello che ho capito dopo quell'esperienza è che non era la Francia che volevo lasciare, volevo abbandonare me stesso, volevo perdere me stesso, peccato che mi ero portato dietro in Brasile e quindi mi sono dovuto, come dire, tenere questa compagnia. E sono stato lì mesi durante i quali appunto è stata la prima volta che ho fatto il giro del Brasile a piedi, in autostop, in battello, dormivo fuori, ma tutti i giorni scrivevo e credo che la scrittura sia sempre stata, e l'ho capito soltanto allora, il mio punto di contatto o forse il rampone che mi teneva attaccato alla vita, lo dimostra il fatto forse che ho già scritto una ventina di libri. Ogni giorno scrivevo potrei descrivere il mio rientro in Francia come una sconfitta, ma credo che non sia in fondo questo, perché attraverso l'immensa stanchezza, l'immensa fatica di quel viaggio a piedi sono riuscita ad arrivare alla decisione di rientrare e di terminare i miei studi, perché io mi mancavano mesi alla discussione della tesi di dottorato in sociologia quando ho deciso di partire. Mi sono quindi ripromesso di rientrare sì, ma non come una sconfitta, piuttosto con l'impegno di diventare un sociologo, un antropologo operante e attivo e impegnato nel suo tempo. E però che cosa mi ci ha condotto? Mi ci ha condotto precisamente il sentimento dello stremo assoluto, della stanchezza, dello sfinimento assoluto che ho vissuto in quei mesi di marcia. Dunque veramente il viaggiare a piedi in Brasile mi ha consentito, se vogliamo, di spogliarmi di una parte di me.
Donc la première décision, finalement, c'était celle de vivre, déjà. Et quand je suis rentré en France, j'ai publié un roman à l'époque qui s'appelle La danse amazonienne. La danse amazonienne, donc c'était en 1982, où je raconte l'histoire d'un jeune occidental qui se perd au Brésil et qui marche, etc. Mais à ce moment-là, la marche n'était absolument pas pour moi une forme de jubilation. C'était plutôt une sorte de fuite en avant, une sorte de dépouillement, une sorte de longue pénitence d'une certaine manière, et pas du tout une voie d'exploration de soi, comme je l'ai redécouvert plus tard.
La décision de rientrer en France est stata quindi comme prima cosa la décision de seguitare à vivre et accettare di restare al mondo. Sono tornato in Francia e nell'82 ho pubblicato un romanzo che si intitola Danza Amazzonica, che appunto è la storia di un giovane occidentale che si perde in Brasile. Però non avevo ancora guadagnato il senso vero di quell'esperienza, nel senso che non vivevo la camminata, non vivevo il viaggio a piedi come una forma di gioia, di esaltazione, di tripudio. La vivevo, l'ho vissuta come una fuga in avanti, come una specie di lunga penitenza, cioè non avevo ancora capito le potenzialità della marcia come via di esplorazione del sé. Queste sono delle acquisizioni successive, più tarde.
Je pense que c'est fini, oui. Il m'a fallu donc il m'a fallu longtemps. Il m'a fallu longtemps pour apprivoiser en quelque sorte la marche. Et je crois que je le dois d'ailleurs beaucoup à ma compagne, qui elle voulait toujours marcher, alors que moi je suis plutôt dans la lecture, dans mon travail de sociologue, etc. Et je crois que c'est elle qui, au fil des années, d'ailleurs je lui dédicace mon livre, si vous l'avez lu, je dis à Nina qui me reproche si souvent que nous marchions si peu. Et donc au fil des années, finalement, en marchant avec elle, j'ai découvert peu à peu le bonheur de marcher. Et j'ai eu l'idée d'écrire le livre, c'était en 99-2000, au moment où j'écrivais un autre livre qui s'appelle « L'adieu au corps » dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui était un essai anthropologique sur le mépris du corps dans nos sociétés occidentales. Le fait que nous devons changer nos corps, le corps qu'on a n'est jamais le bon, l'idée que le corps est obsolète, dépassé, périssable, méprisable, etc. Et donc je travaillais à l'époque sur, pour essayer de faire montrer la cohérence d'une sorte de discours néognostique dans nos sociétés occidentales. C'est-à-dire le corps comme lieu de la chute, comme lieu de l'horreur finalement, tout serait tellement mieux, disent un certain nombre de nos contemporains, si nous n'étions pas emprisonnés dans notre corps. Donc je lisais tous les jours énormément, notamment des textes nord-américains, puritain, évidemment, la haine du corps, ça va de pair avec le puritanisme, la haine du désir, la haine de la jouissance du monde. Donc je lisais des auteurs américains, des scientifiques américains notamment, des roboticiens par exemple, qui ne rêvent que du moment où on va supprimer complètement la chair pour la remplacer par des prothèses, nous robotiser quoi finalement avec d'innombrables puces informatiques, etc., avec ce fantasme de l'immortalité, nous allons devenir immortels puisque nous allons supprimer le corps, ou alors nous allons réussir à manipuler l'ADN pour supprimer le vieillissement. Bon, tous les jours, j'étais dans des textes absolument effrayants, et c'est là où j'ai éprouvé la nécessité intérieure de relire plein de marcheurs écrivains ou d'écrivains marcheurs. Et à ce moment-là, comme nous marchions beaucoup, ma compagne et moi, j'ai commencé à écrire en contrepoint, vers la haine du corps d'un côté et l'émerveillement du corps de l'autre. Et c'est ce qui fait que j'ai écrit Éloge de la marche et qu'aujourd'hui, donc là, par contre, à chaque fois que nous allons quelque part, nous marchons systématiquement pendant des heures tous les jours. Mais vous voyez, ça a été une conquête. Il m'a fallu du temps pour comprendre que la marche pouvait être un vrai bonheur.
Aspetti un attimo che cerco sommariamente come posso di tradurlo. Insomma, ci ho messo molto tempo per addomesticare questa marcia, questo viaggio a piedi, e in questo senso devo molto alla mia compagna, alla quale sono dedicati molti dei miei libri, Nina, che mi rimprovera sempre che non camminiamo abbastanza. Lei ha sempre camminato, ha sempre amato la marcia così spontaneamente, io ero più il tipo che passava il tempo a leggere, ma poco a poco l'ho scoperta la felicità, la gioia della camminata, e l'ho scoperto attraverso il lavoro che ho fatto, cioè me ne ha dato l'occasione il lavoro che ho fatto. Io ho studiato per molto tempo le tesi che non sono soltanto filosofiche, ma anche per esempio di tecnologi, le tesi del disprezzo del corpo, dell'obsolescenza del corpo, l'addio al corpo è il titolo di uno dei miei libri, cioè il corpo come luogo della caduta, in quanto è il luogo del peccato originale, quindi tutti i puritani francesi e la condanna del piacere del corpo, siamo imprigionati, siamo incatenati dentro questo corpo miserabile, e le sogni, le fantasie degli studiosi di robotica, quelli che vogliono soppiantare il corpo umano e sostituirlo appunto con mezzi tecnologici, con i microchip, le protesi, eccetera. Allora da una parte l'aspirazione all'immortalità per mondarsi dal peccato del corpo, d'altra parte la soppressione tecnologica del corpo. Insomma, tutti i giorni io ero immerso in queste letture, e a un certo punto mi è venuta la necessità interiore di rileggere gli scrittori che invece camminavano con gioia e ci trovavano molto, e l'avevano riversato nei loro libri. Solo allora sono passato dalla frequentazione dell'odio, del disprezzo del corpo, comunque della visione del corpo come qualcosa di superato o superabile, alla meraviglia, allo stupore verso il corpo, e quindi l'arrivo, come dire, alla marcia come una conquista che mi è costata molto, molto tempo, ma che è stata anche un viaggio verso la scoperta di una grande gioia, di una grande felicità.
Credo che sia il suo momento.
No, un po' ha già risposto prima, che la conquista del piacere di camminare, no? Ecco, e quella, una domanda era quella, quando l'ha capito? La seconda era quando ha capito che oggigiorno, ai nostri tempi, in questa società nostra occidentale, perché è un atto sovversivo camminare, come ha detto prima lei, perché io sono d'accordissimo, è un grande atto sovversivo, perché camminare appunto sei uno spaccendato, non va bene, perdi tempo, e invece non è vero, è tutto quello che lei ha detto, è pensare, riflettere, risolvere i problemi, non dare fastidio a nessuno, intanto camminare per Milano, camminare nei boschi, camminare in montagna, cioè la cosa più bella del mondo, non c'è niente di meglio che camminare, secondo me. Tanto è vero che negli Stati Uniti d'America è vero che abbiamo tanti scrittori come Thoreau e tanti e grandi camminatori, è anche vero che al di fuori delle grandi città camminare in America è un atto sospetto, perché se tu, e lei lo sa, se tu cammini negli Stati Uniti d'America vieni fermato dalla polizia perché sei sospetto,
sei un vagabondo, okay?
Sei un uomo, questo è chiunque. Quindi camminare è un atto sovversivo, chiunque cammina, tanto è vero che a Roma si dice, io vivo a Roma, sono di Roma, camminare, camminano solo gli extracomunitari, che mi sembra una follia, cioè, perché se noi tu sei, non puoi più camminare, vedi, perché cammini? Perché cammino? Io ho le gambe, cioè, ora voglio dire, quando, ecco la mia domanda poi in sintesi, per farla breve, volevo solo capire quando lei ha capito che era un atto sovversivo, oltre a la gioia ce l'ha spiegata, ma quando ha capito che era
un atto sovversivo?
Là, je l'ai compris dès que j'ai commencé à écrire. Je n'avais jamais vraiment réfléchi sur un plan plus politique, plus anthropologique sur la marche. Mais dès que j'ai commencé à relire Stevenson, Thoreau et tous les autres, je me suis dit, mais dans quel monde finalement je suis? C'est un décalage absolu avec le monde d'aujourd'hui. Et là, évidemment, l'idée de la marche comme une subversion, comme un acte de résistance, saute absolument aux yeux. Mais je crois qu'il faut effectivement distinguer les formes de marche. Là, nous parlons ensemble plutôt de la randonnée, de la promenade, des marches urbaines. C'était des marches que nous choisissons et qui sont des formes d'épanouissement personnel, des formes de loisirs. Mais il est clair que dans nos sociétés, il y a d'autres formes de marche. Il y a celle, par exemple, des jeunes en errance. Donc, parmi les conduites à risque des jeunes d'aujourd'hui, on inclut l'errance. C'est-à-dire des jeunes qui fuguent et dont la fugue dure, qui sont dans une chronicisation en quelque sorte de leur fugue et qui vont vivre dans des squats. Alors, en tous les cas, vous en avez énormément en France, vous en avez énormément en Allemagne, en Europe du Nord, vous en avez énormément au Canada, énormément aux États-Unis. Donc, ils ont 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, ils n'ont aucun lieu où vivre, ils vont de squat en squat, ils vivent dans des conditions extrêmement dures. Et avec le sentiment que leur vie n'a aucun sens, qu'ils sont insignifiants, qu'ils sont méprisables, etc. Là, ce n'est pas du tout une marche qui est choisie, évidemment. On est dans la souffrance. C'est aussi la souffrance des sans-abri, des clochards, comme on disait autrefois. La marche des migrants, des migrants qui essaient d'entrer aussi clandestinement en Italie, en France, au Portugal, en Espagne, etc. Bon. Là, on est plutôt dans une fuite en avant qui est aussi portée par la souffrance. Je pense à Primo Levi, par exemple, la marche forcée vers les camps de la mort. Là, on n'est pas du tout non plus dans des formes de jubilation. La marche est vraiment un supplice, en quelque sorte. Il faudrait aussi parler des marches dans les prisons, par exemple, de la promenade, par exemple, en prison, qui est un moment capital dans la vie d'un détenu. Il ne va pas sortir dehors, il ne va pas aller dans la forêt, il va aller dans la cour de la prison. Mais pourtant, c'est un moment qu'il va attendre passionnément tous les jours, parce qu'enfin, il va avoir un peu plus d'espace devant lui. Voilà. Ce matin, j'évoquais deux anecdotes. Je les trouve très belles. Je voudrais les raconter rapidement. La première fois, d'ailleurs, j'étais étudiant. Je me souviens, j'avais été très ému par cette histoire. C'est l'un des premiers films des frères Taviani, San Michele, Aveva un Gallo. Vous vous rappelez que dans les premiers moments du film, un anarchiste est libéré. Et cet homme qui a passé, je ne sais plus son nom, mais il a passé très très longtemps dans les prisons de l'époque, du 19e siècle, et il n'a cessé de marcher dans sa cellule en se disant qu'il parcourait un espace. Comme s'il était dans sa région natale. Il allait d'une ville à une autre, et tous les jours dans sa cellule, en tournant, il se disait « j'arrive à tel endroit, je vais me reposer près de la source un tel ». je vais dormir à tel endroit. Et cet homme avait tenu avec une force intérieure absolument avec une force intérieure considérable. Il avait résisté à l'oppression et finalement il avait survécu à son emprisonnement grâce à cet imaginaire de la marche. Et il y a un très beau texte français écrit par Xavier Demestre qui s'appelle « Voyage autour de ma chambre ». Qui raconte l'histoire d'un, enfin c'est une histoire vraie d'ailleurs, d'un officier français qui est puni par son commandant. Il est mis aux arrêts pendant une quarantaine de jours dans son logement. Et cet homme va marcher. Cet homme dit que jamais personne ne pourra emprisonner son esprit. On peut emprisonner son corps, mais jamais son esprit. Et il va marcher pendant tout le temps de sa mise en arrêt autour de sa chambre, lui aussi, en imaginant qu'il est en train de parcourir la France et il va d'un lieu à un autre. Et tous les jours, il se dit, voilà, aujourd'hui, je suis arrivé là. Je vais continuer demain pour aller à tel endroit. Et il a écrit un livre absolument merveilleux. Je pense qu'il est traduit en italien, Voyage autour de ma chambre. C'est un auteur du début du 19e siècle.
Ho scoperto il valore sovversivo del camminare a piedi quando ho cominciato a scrivere. E non avevo mai riflettuto prima in termini politici, antropologici su questo problema, sul significato, sul senso di camminare. Però rileggendo Stevenson, rileggendo Thoreau, veramente mi sono chiesto ma in che mondo sto vivendo, mi sono reso conto dell'enorme scarto assoluto che provavo nei confronti del mondo odierno. E insomma è lì che ho visto il senso anche di, come dire, di sovversione, quantomeno liberatorio, del camminare a piedi. Naturalmente non bisogna confondere tutte le forme di marcia, ci sono tante forme e quella di cui parlo io chiaramente è soltanto quella volontaria, quella scelta, la passeggiata, la camminata, il viaggio a piedi che si fa per piacere. Sono ben consapevole che ce ne sono tante però, c'è la camminata, lei ha detto giustamente che in certe città quelli che vanno a piedi sono i disgraziati, sono considerati e sono alla fine i disgraziati. Beh, tante forme anche là dentro, i giovani erranti, i giovani vagabondi, quelli che sono in fuga, quelli che vanno a dormire nelle case occupate, ma possono avere 15, 16, 17 anni e vivono in nessun luogo, non hanno un posto, e quindi vivono la marcia, la camminata in condizioni durissime, non è una scelta, è una sofferenza. I senza tetto, i barboni, gli immigranti clandestini che a piedi cercano di bucare i nostri confini, Italia, Spagna, Francia, Portogallo, quelle sono delle vere e proprie fughe, ma la marcia è una fuga dalla sofferenza, quindi non è una marcia libera, una marcia scelta, come era un supplizio la marcia forzata dei prigionieri dei campi nazisti, descritta da Primo Levi, quando chiusi i campi per l'arrivo degli alleati, furono buttati tutti quanti sulle strade d'Europa, in marce forzate che erano appunto, come dire, l'ultimo pezzo dello sterminio, e ancora l'ora d'aria dei carcerati. Però l'ora d'aria dei carcerati e l'attesa di questa ora d'aria, anche se si tratta di fare la passeggiata nel cortile del carcere, mi ricorda due cose importanti che anche loro ci danno il senso del valore, anche sovversivo e comunque liberatorio, della marcia. Lo dicevo a chi vi ha preceduto stamattina, un film che mi ha molto commosso, che mi ha molto toccato, che ho visto quando ero giovane, è stato uno dei primi film dei fratelli italiani, San Michele aveva un gallo, dove c'è un anarchico che è stato in galera a lungo e racconta dopo la sua liberazione come lui in cella facesse la passeggiata dentro la cella, e quello era ripensando ai luoghi della propria regione natale, immaginando di fare il bagno in questa o quella sorgente. Quella è stata, come dire, una garanzia della tenuta della sua forza interiore di resistenza all'oppressione, grazie alla camminata, anche se molto più immaginaria che non concreta. E l'altra, un esempio, come dire, più dotto, ma sulla stessa falsariga, è Xavier Demestre, che ha scritto un libro che si chiama Viaggio attorno alla mia camera, in cui racconta una storia vera di un ufficiale francese punito, messo agli arresti domiciliari dal suo superiore per non so quale violazione, e che si rende conto che si può imprigionare il corpo ma non lo spirito, perché lui stesso dentro la sua cella, insomma, dentro il suo alloggio, che per lui è diventato però un carcere, fa il viaggio intorno alla Francia, attraversa la Francia, immagina di recarsi di luogo in luogo ogni giorno, anche lì resistenza dello spirito, nessuno mai potrà mettere in galera, insomma, o agli arresti il mio spirito, fin quando riesco a immaginare, anche solo a fantasticare, il viaggio a piedi.
Non l'ha veduto?
No. Non mi sveglio, ce lo conosco. Oui, alors là, la marche devient effectivement un acte politique dans les circonstances de manifestation, dans les la longue marche de Mao, la marche du sel de Gandhi. Il y a des grandes marches qui ont complètement bouleversé l'histoire du monde, en effet. Et puis il y a toutes les utilisations politiques de la marche pour bloquer la circulation des voitures, justement, et s'emparer du centre des villes en dénonçant les politiques, en dénonçant mille et mille choses. C'est un autre usage subversif de la marche, effectivement, dont j'ai peu parlé, parce que c'est pas celui-là qui m'intéressait. Mais vous avez raison de le rappeler.
Sì, non ho parlato di queste forme di marcia a piedi, che anche loro hanno un forte significato sovversivo di atto politico, secondo le varie circostanze, appunto grandi manifestazioni, la lunga marcia di Mao che lei ha citato, quella del sale di Gandhi, grandi marce storiche che hanno, come dire, sconvolto un'epoca della storia del mondo, ma anche più semplicemente i cortei che bloccano la circolazione in città per appunto rivendicazioni politiche d'altro genere. Sono tutte forme da cui emerge abbastanza chiaramente, come dire, il potenziale anche sovversivo della marcia a piedi.
Magari e rimane fermo, si ha poca paura, ma quando comincia a camminare, allora gli altri hanno paura di lui. Quindi la marcia, per coloro che hanno dei problemi psicologici, può essere un modo, come dire, per scaricare le loro tensioni, e però creano una sovversione nella psicologia altrui, chiaramente, no? Perché la persona che rimane ferma, ripeto, con dei problemi psicologici è controllabile. La persona invece che cammina crea immediatamente un certo panico. Questo mi sembra abbastanza...
Oui, alors je suis... No, io non
quello che ha detto.
Ma fa lo scambio tra la mano e il
cibo.
Quando parla dice sono un po' stanchino. Tutto quello che dice.
Ma da parte
di...
va bene.
Je peux rebondir là-dessus pour dire que la...
Lui non l'ha visto. E poi ci stanno parlando tra di loro.
Oui, donc je voulais rebondir quand même sur cette idée du fait de marcher qui ferait peur, le fou qui marche et qui ferait peur, parce que la marche est très souvent utilisée quand même comme une forme de thérapie. Je voulais le rappeler. Vous savez qu'on fait, par exemple, aujourd'hui, on fait marcher des personnes qui sont atteintes de cancer, qui sont atteintes de maladies graves, par exemple, pour qu'elles reprennent confiance dans leurs ressources, qu'elles retrouvent une confiance dans la vie, une confiance dans les autres. On fait d'ailleurs aussi marcher dans les montagnes des enfants. Je pense à une expérience française, par exemple, où un médecin alpiniste emmène des enfants sur des sommets à travers des très très longues marches. Il y a donc dans la marche une manière de dissiper la souffrance, de diluer la souffrance, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure à travers mon expérience brésilienne. Il y a aussi la très belle initiative de Bernard Olivier, qui est un grand écrivain marcheur, un homme qui a 65 ans, a marché après sa retraite, il a marché de Venise jusqu'à... Enfin, il a pris le bateau à Venise jusqu'à Istanbul, et il a marché de Istanbul jusqu'en Chine, c'est la route de la soie. Donc Bernard Olivier, je crois qu'il est traduit en italien, en tous les cas, c'est l'un des plus beaux, sont les livres les plus beaux que j'ai lus pour ma part sur la marche. Et Bernard Olivier donc a retrouvé un second souffle dans son existence, puisqu'il explique dans les premières pages du premier tome de ses livres que sa femme est décédée, que ses enfants sont devenus très grands aujourd'hui, et que finalement sa vie n'a plus aucun sens. Et il décide de partir, voilà. Et c'est donc l'histoire d'une renaissance, d'une certaine manière. Et lorsque Bernard Olivier a terminé sa marche, lorsqu'il est arrivé dans cette ville chinoise dont le nom m'échappe, quand il est rentré en France, il a créé une association pour proposer à des jeunes toxicomanes, des jeunes délinquants, des jeunes dans une rupture absolument totale avec la civilité, avec nos formes de civilité, il leur a proposé de marcher pendant des mois avec un éducateur, et c'est une initiative qui rencontre un succès absolument extraordinaire, extrêmement efficace, très peu coûteuse, puisqu'on est dans un monde malheureusement où il faut sans arrêt parler d'argent, c'est-à-dire que ce sont des jeunes qui vont marcher vraiment pendant des mois avec un contrat extrêmement dur, mais à l'issue de ce chemin, il y a toujours une renaissance. Ce sont des jeunes qui retrouvent le goût de vivre et qui vont s'inscrire dans des formes de civilité qu'ils avaient totalement perdues. Donc la marche n'est pas seulement un lieu de folie, on pourrait dire. Non, c'est aussi très souvent un lieu où l'on peut guérir de ses souffrances et où on peut retrouver le chemin des autres, le chemin de la civilité.
Colgo lo spunto del tema del folle o del disturbato che cammina facendo paura agli altri, per dire che la marcia può essere terapeutica. E a questo proposito voglio citare un paio di esperienze di cui sono al corrente, che sono grosse e significative nella terapia di cose varie. Ci sono medici alpinisti che portano i malati di cancro, i malati di altre malattie gravi in quota, perché quell'esperienza di camminare in montagna può dissipare le sofferenze dei malati e aiutarli a ritrovare fiducia nelle proprie risorse, nelle risorse personali, che siano fisiche e psichiche, poco importa. E l'esperienza anche di Bernard Olivier, che è uno dei grandi scrittori di camminate a piedi, di scrittori di viaggi a piedi, francese, che a 65 anni persa la moglie e con i figli ormai grandi va in pensione e parte per questo viaggio in cui lui dalla Francia va a Venezia, si imbarca fino a Istanbul e poi si mette per strada e da Istanbul fa la via della seta e va fino in Cina. Si chiama il libro, perlomeno credo che sia pubblicato in italiano, dice lui, io non ne so niente perché sono ignorante, ma se è uno di questi libri che ha scritto, si chiama La via della seta. E lui, Bernard Olivier, dice che questa enorme, lunghissima viaggio a piedi gli ha ridato, lui dice, un secondo respiro, cioè gli ha fatto ritrovare il respiro della vita, che aveva abbastanza perso il senso per la morte, l'allontanamento dei suoi cari. Quindi marcia come rinascita. Quando finisce questo viaggio a piedi di Bernard Olivier in Cina, in una città cinese, lui torna in Francia e crea un'associazione che va forte in Francia, perché porta a camminare tossicodipendenti, giovani delinquenti, cioè delle persone che hanno una rottura più o meno totale con la civiltà come noi la intendiamo, e sulla base di un contratto, insomma, di norme piuttosto ferree, li porta a camminare per mesi, accompagnati però singolarmente da un educatore. E pare che sia un mezzo di terapia non solo molto efficace, ma estremamente a buon mercato, perché lui ti chiede le gambe e la volontà, oltre che appunto delle regole. E grazie a questo tipo di terapia della camminata, molti di questi riescono a reinscriversi in una qualche forma di vita civile, di vita associata. Allora, controbattevo alla marcia, alla camminata come luogo di follia, proponendo la marcia come uscita dalla sofferenza psichica.
Non è un luogo di follia, anche per me è un modo di scaricare la propria follia, no? Uno rimane seduto e la propria follia, diciamo, rimane stagnato, come dire, invece camminando, però io ho detto, diventa sovversiva però per gli altri, perché l'altro che vede l'altro fermo dice, ma questo qui è fermo. Se invece
tranquillo,
vede che cammina, perché c'è sempre un rapporto, diciamo, camminatore e altri, no? Perché non siamo mai soli. E allora c'è questo rapporto però con gli altri, che l'altro dice, ah, quello lì è folle, sta camminando, quindi è pericoloso. Capisce? Cioè, voglio dire, i punti di vista sono diversi, ecco. Io volevo mettere in evidenza entrambi, parlando, ritornando a Forrest Gump, in questo modo, no? Tutto lì.
Posso?
Sì.
Premettendo che amo il percorso, anche quando faccio il viaggio mi interessa chi incontro, cosa vedo, più di dove arrivo, ma quanto è importante la meta?
Ben c'est, je crois que c'est le voyage qui importe et moins le but, parce que finalement le but change en permanence. Si on marche longtemps, on marche plus vraiment pour les mêmes choses de jour en jour. Donc il y a quelque chose qui nous a forcé à partir, et puis peu à peu le travail de la marche nous change, et à ce moment-là le but devient autre chose. Donc je pense que là on peut retrouver les vieilles formes de... un vieux langage de spiritualité qui dit que non, ce n'est pas le but qui compte, mais c'est le chemin qui compte, évidemment.
Oui, sì, è importante il viaggio, ma è importante il viaggio, molto meno la meta. È una, come dire, una vecchia linguaggio, una vecchia massima di spiritualità, che è quello che conta, è il percorso e non la meta. C'è sempre qualcosa che ci costringe a partire, ma poi c'è un lavoro del viaggio, della camminata, della marcia, che ci cambia, ci modifica a poco, ed è quello forse lo scopo che vogliamo raggiungere.
Vuol dire, questo metaforicamente è anche quello che ci accade nella vita, che invece di preoccuparci di dove dobbiamo arrivare, riuscissimo a considerare sempre
la strada,
quello che stiamo facendo per arrivare, saremmo un pochino più.
Oui, c'est la marche, c'est l'instant. Ce n'est pas dans un mois ou dans trois jours, c'est là, je marche, je vois des choses. C'est ici et maintenant.
Sì, lui dice che camminare è l'istante, è il qui e ora. Non è il pensiero del luogo dove si è diretti, ma il momento dopo momento del percorso.
Et c'est d'ailleurs pour cela que la marche est aussi une forme de thérapie. Je n'aime pas le mot, mais... parce qu'elle nous décentre, elle nous pose des problèmes concrets.
Sì, la marcia come terapia, anche se lui la parola terapia non piace, perché comunque la marcia ti decentra, nel senso che ti pone dei problemi concreti del qui e dell'ora, per cui esci fuori un po' dal tuo rovello.
Où est-ce que je vais dormir? Où est-ce que je vais manger? J'ai froid, j'ai chaud, je suis fatigué. Donc on a l'esprit qui est occupé en permanence et en même temps disponible. Qui fait qu'on repousse, on oublie sa souffrance, on oublie ses tracas.
Sì, quando la mente si concentra su sono stanco, ho sete, ho fame, dove dormo stanotte, la sofferenza che ci ha spinti fuori di casa, come dire,
rimane.
Sì, ma sullo sfondo, perché hai comunque da pensare alla risoluzione di problemi materiali, concreti, immediati.
Mi ha detto poco fa che...
Sì, che no.
Ah oui, d'accord. Ah oui, non, peut-être. Bon, peut-être une dernière question.
Un'ultima domanda.
Un'osservazione su questa cosa del quello che ci spinge poi ad uscire, e poi in realtà è la metafora di dire esco a fare due passi, ma in realtà entro a contatto con quella che è la spiritualità, che può essere che possiamo ritrovare nella natura, nel camminare, nel fare, anche nell'andare per mare, quindi il contatto con il divino che è in noi e che però ritroviamo nella natura. E quello che ci spinge a fare questo, penso, almeno l'ho riflettuto su questa cosa, è anche, forse non so se lei me lo può confermare, il disagio che spesso noi viviamo nel nostro quotidiano, nel nostro percorso di vita. Quindi attraverso la sofferenza poi si fanno queste grandi scoperte, la scoperta proprio della bellezza della natura e quindi del divino. Quindi c'è questo percorso parallelo che però si incontra, cioè della camminata e del vivere la propria spiritualità, cioè quello che ognuno di noi poi ha guardandoti dentro.
Oui. Oui, je crois qu'une marche est toujours une forme de métaphysique. La marche nous arrache à nous-mêmes, elle nous plonge dans une cosmologie, elle nous plonge dans une durée qui n'est plus la durée sociale, elle nous plonge dans des soucis qui ne sont plus les soucis de la vie quotidienne. Donc toute marche, je crois, est une cosmologie. Toute marche est une métaphysique et immanquablement, elle devient une spiritualité. Parce que d'ailleurs, on pose toujours aux marcheurs les trois grandes questions de la philosophie. Qui es-tu? Où vas-tu? La troisième me manque, mais c'est les trois grands.
D'où tu viens, où tu vas.
D'où tu viens, où tu vas, et pourquoi? et pourquoi? Oui, voilà. Donc, alors là, on pourrait dire d'ailleurs aussi que la marche est forcément toujours une botanique, une géographie, une anthropologie, une sociologie, une architecture, parce que partout où l'on marche, on ne cesse de s'interroger sur tout ce qu'on voit, sur les mœurs, les coutumes, l'architecture des lieux, les arbres, etc. Donc c'est vrai qu'il y a dans la marche une ouverture au monde qu'évidemment on ne rencontre nulle part ailleurs. Parce qu'en plus, on peut dire la littérature nous offre ça, on peut dire le cinéma nous offre ça. Mais en même temps, on est quand même dans un rapport de distance. Là, on est dedans. On est forcé de s'interroger, quoi.
Sì, camminare ti costringe a interrogarti e in fondo ogni camminatore si sente porre o si pone forse le grandi domande della filosofia, chi sei, da dove vieni, dove vai perché ci vai e quindi immancabilmente anche un'immersione in una cosmologia, in un'osservazione della natura, dell'architettura, dei costumi, delle persone. Un'immersione in una durata diversa, in una temporalità diversa da quella di tutti i giorni e anche forse una forma di metafisica. Una grande apertura al mondo sicuramente, che ci possono offrire anche altri mezzi, cioè la letteratura e il cinema per certo, ma sempre con quella distanza, la distanza dallo schermo, dalla pagina scritta, mentre camminando ci sei dentro.
Che dite, abbiamo fatto? No, lui...
Dicevamo prima che in alcuni posti è un po' visto in maniera strana, se si cammina si può essere fermati. Ora, l'anno scorso un italiano, un esperantista, è partito dall'Italia con l'intenzione di andare in Giappone a piedi e tornare, si chiama Marino Curnis. E io sapevo, almeno ho saputo, che è stato bloccato più o meno all'altezza della Cina o in qualche stato tipo Kazakistan, non lo so, così, per motivi legali. Non l'hanno fatto entrare perché lui aggiornava in tempo reale il suo diario online e non voleva un'autorità cinese che descrivesse quello che vedeva. Ora volevo chiedere, le è mai successo di avere problemi del genere o di vivere problemi del genere di essere bloccato per motivi di lingua o per discriminazioni di razza, di religione, di credenze? O il contrario, cioè di vedere che con una marcia si riescono a superare e quando è successo questa cosa?
Non, moi je n'ai jamais connu d'expérience de rejet. Au contraire, la marche a toujours été pour moi un moment d'ouverture aux autres, de rencontre avec les autres. Mais il y a aussi, là vous parlez d'une marche à travers la Chine. Bernard Olivier a eu énormément de problèmes. Il s'est fait souvent voler des affaires. Il a eu des problèmes de santé. Il a été poursuivi par des chiens, par exemple en Turquie, il y a des chiens extrêmement sauvages qui attaquent toutes les personnes qui s'approchent des troupeaux que les animaux gardent. Je sais qu'en Afrique, c'est très difficile de passer les frontières. J'ai aussi un petit peu voyagé en Afrique, le rançonnement des policiers, etc. est permanent. Mais quand on se promène en Europe, en principe, quand on se promène en Amérique du Nord ou en Amérique latine ou dans beaucoup d'endroits en Asie, il n'y a quand même aucun problème. Mais un certain nombre de pays sont en effet extrêmement fermés, extrêmement réticents à la venue d'étrangers et ne supportent pas la mise en question. Et effectivement, ça c'est un problème. Mais moi je n'ai jamais rencontré personnellement. Mais je ne suis pas allé dans ces pays-là. Je préfère aller dans des pays que j'aime, où je suis sûr de l'hospitalité, plutôt que d'aller dans des pays où je sais que je vais être méprisé pour la couleur de ma peau, parce que je ne suis pas de la bonne religion ou autre. Ça ne m'intéresse pas trop.
Non ho mai conosciuto dei problemi di questo genere, anche perché forse preferisco io andarmi in dei paesi dove sono certo in qualche maniera dell'ospitalità, dove non rischio di essere disprezzato ho escluso, ho scacciato perché non so, non sono bianco piuttosto che di un altro colore, o perché non seguo la religione giusta. Per me, appunto, la mia esperienza quindi di camminata a piedi, di marcia, di viaggio a piedi è di grande apertura agli altri. Però lei ha parlato della Cina o giù di lì, e Bernard Olivier, che ho citato prima, ha avuto enormi problemi lungo il suo viaggio nella via della seta, oltre a essere stato derubato più volte, problemi di salute e aggressioni di cani. E anche in Africa, a quanto mi risulta, è molto difficile passare le frontiere nazionali, perché c'è una specie di taglia imposta spesso dalle forze di polizia, degli ufficiali delle guardie di confine, eccetera, per cui io le mie esperienze sono in America Latina o in Nord America, e lì effettivamente sono meno, come dire, meno restii, meno alla venuta, all'ingresso dello straniero.
Merci, merci. Merci beaucoup. Et bonne route. Merci Marina aussi.
L'anno passato ho fatto il cammino di Santiago, la tercera, e a Burgo, mi facevano dove vai?